Le podcast Relais Santé.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission intitulée Le podcast Relais Santé. Je m'appelle Robin Le Vigneron et je suis étudiant ingénieur à l'Université Technologique de Compiègne et étudiant Relais Santé. Donc les étudiants Relais Santé, en fait, on est un groupe d'étudiants et étudiantes au service de la région. Et notre rôle est de sensibiliser et effectuer des actions de prévention sur différentes thématiques autour de la santé et du bien-être. Donc la nutrition, le sport, la santé, le sexe, etc. Pour notre premier podcast, nous avons le plaisir d'accueillir Domitille Gossard, qui va nous présenter son métier de sage-femme. Donc merci d'être parmi nous. Donc présentez-vous, qui êtes-vous et voilà.
Bonjour, et eh bien merci de m'inviter et je trouve que cette émission est vraiment remarquable. Je suis donc sage-femme libérale depuis 28 ans à Compiègne. J'ai d'abord effectué 3 années au sein d'un hôpital. Ensuite, je suis partie 3 années en tant qu'hôtesse de l'air chez Air France et je suis revenue à mes premiers amours dans le libéral. J'ai en outre, un diplôme universitaire de grossesse à haut risque que j'ai fait il y a une quinzaine d'années et pour compléter mes connaissances en obstétrique et un diplôme universitaire d'hypnose médicale que j'ai fait il y a juste 2 ans pour aussi avoir une approche différente de la médecine avec mes patientes.
Ok, d'accord. Donc un très beau parcours, vous avez touché à plein de choses. Donc du coup, depuis combien de temps exercez-vous ce métier de sage-femme et pourquoi l'avoir choisi ?
Alors, en libéral, ça fait 28 ans. Après, je n'ai pas compté, mais ça fait un petit peu plus. Ça a été une révélation. À 12 ans, j'étais sur la plage avec une petite copine de Château de Sable et on faisait nos présentations. Et ton papa, qu'est-ce qu'il fait ? Ta maman ? Eh bien, ma maman, me dit-elle, elle est sage-femme. Et là, ça a été le eureka. J'hésitais entre pharmacien, médecin, orthophoniste. Et médecine, je trouve ça un petit peu long. Pharmacien, un petit peu trop de poudre à manipuler et pas assez humain. Et quand elle m'a parlé de ce métier-là, je me suis dit, mais oui, mais c'est bien sûr. Et depuis l'âge de 12 ans, ce métier ne m'a pas quitté. Cette idée ne m'a pas quitté. En revanche, pourtant, j'ai fait une formation qui était plutôt économique. J'ai passé un bac économique et pas un bac scientifique. Du coup, après mon baccalauréat, j'ai préparé les concours une année en suivant des cours toute seule, comme une grande, en première C, en terminale D. D, c'était scientifique. Et en prépa HEC, pour suivre des cours de philo, parce qu'il y avait une épreuve français et je voulais vraiment la réussir parce que j'étais bien forte en philo, une épreuve de physique, chimie et sciences naturelles et je voulais rattraper les années que je n'avais pas eues dans ces domaines.
Ok, d'accord. Et du coup, on va passer dans le dur du sujet. Donc en quoi consiste le métier de sage-femme ? Qu'est-ce que vous faites concrètement ?
C'est un métier qui a multifacettes. C'est un métier où on peut être à l'hôpital. À l'hôpital, eh bien, on est en salle d'accouchement, en particulier, entre autres. Et en fait, les sages-femmes sont un peu les seuls maîtres à bord en salle d'accouchement. On appelle les gynécologues qu'en cas de nécessité, c'est-à-dire forceps ou césarienne. Sinon, le monde des salles d'accouchement, c'est vraiment notre univers. On gère les entrées, les sorties, on gère les urgences. On a des internes aussi avec nous pour les urgences. Mais on suit les accouchements du début jusqu'à la fin. Donc il y a des sages-femmes qui font exclusivement de la salle d'accouchement. Il y a des sages-femmes qui se mixent un petit peu, qui font aussi des suites de couches. Donc la durée du séjour de la patiente à la maternité, qui est de plus en plus réduite, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui c'est plutôt 3 jours après un accouchement, 5 jours après une césarienne. Plutôt, on peut même sortir plus tôt si on le désire, à condition d'être suivi par une sage-femme à la maison. Donc ça, c'est le côté hospitalier. Il y a des sages-femmes qui ont passé des diplômes universitaires, comme moi j'en ai passé, mais là en échographie, qui peuvent être échographistes et qui peuvent suivent en fait toutes les grossesses en échographie qui peuvent, si on a un souci, un questionnement par rapport à un fibrome, faire des recherches avec des échographies de fibromes. Donc il y a des sages-femmes spécialisées en échographie. Il y a des sages-femmes de PMI. La PMI, c'est la protection maternelle infantile qui, en fait, est aussi le planning familial. C'est là où on reçoit les femmes. Il peut y avoir des consultations prénatales, il peut y avoir des consultations de contraception. Ça s'ouvre à tout public, étudiants compris, et ça s'ouvre aussi à un public de gens défavorisés qui n'ont pas de carte santé, des gens qui sont qui viennent d'arriver en France pour multiples raisons. Et puis, il y a les sages-femmes libérales, dont je fais partie après avoir fait donc, ces 3 années d'hôpital. Et là, en libéral, eh bien, notre champ d'action est très vaste. On peut faire, et moi, en tout cas, ce que je fais en particulier, c'est tout particulièrement les suivis gynécologiques des femmes. Donc, je m'adresse à toutes les femmes de 12 à 80 ans. Dans les suivis gynécologiques, il y a les première contraception, les premiers rendez-vous de contraception, il y a les prescriptions donc de contraception, il y a aussi les bilans de MST, il y a aussi les frottis, il y a aussi les consultations annuelles, il y a des consultations de prénatales pour les suivis de grossesse, donc je fais les suivis de grossesse du début jusqu'au 8e mois inclus. En général, les maternités aiment bien récupérer leurs patientes au moins au 9e mois, parfois un petit peu avant, mais moi j'estime que si je suis une patiente, c'est toute la grossesse. Et puis, on fait aussi des cours de préparation à l'accouchement avec les papas. Ce sont des cours en général en petit comité. Il y a 3 personnes, 3 mamans en tout. Les papas accompagnent. Et puis, il y a ensuite une partie qui peut être aussi la rééducation périnéale après l'accouchement. Ça, j'en fais un petit peu aussi pour avoir un suivi global de mes patientes. Et il y a ce qu'on appelle le prado. Le prado, ce sont les visites à domicile des femmes qui viennent de sortir de la maternité. Certaines femmes peuvent demander à avoir une sortie précoce, c'est-à-dire 24 heures après leur accouchement, à condition que l'enfant soit en bonne santé, à condition que l'ictère du nouveau-né ne soit pas trop prégnant, à condition que la mise au sein ou bien que l'enfant prenne bien son biberon. Si toutes les conditions sont réunies à ce moment-là, on peut visiter la jeune accouchée à la maison et pour le plus grand bonheur de certaines mamans qui ne veulent pas rester trop longtemps à la maternité.
Donc au final, il y a plein de raisons pour lesquelles on pourrait avoir affaire à une sage-femme, si j'ai bien compris, c'est ça ?
Oui, en fait, on est vraiment un métier de femme à femme, mais aussi de femme à homme, parce que je vois de plus en plus de jeunes femmes, de jeunes filles entre 16 et 25 ans venir avec leurs compagnons, et ça, je trouve ça vraiment remarquable, car il y a déjà qu'ils se sentent responsabilisés dans la contraception, mais aussi sur les risques des MST, parce que les maladies sexuellement transmissible, eh bien, si un compagnon l'attrape, peut-être qu'il fera sa vie avec cette jeune femme qui est là avec moi en consultation, mais peut-être qu'il la fera avec une autre femme, mais peut-être aussi qu'il pourra lui repasser cette maladie sexuellement transmissible qui peut être responsable de stérilité. Et ça, c'est vraiment important que les garçons, les hommes, soient de plus en plus avertis au courant qu'ils sont vraiment les bienvenus au cours de ces consultations.
Vous avez totalement raison. Et du coup, comment est-ce que ça se passe ces consultations, notamment la première consultation, est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce que c'est des consultations qui sont remboursées par la Sécu? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations?
Alors, d'abord, toutes les femmes peuvent nous consulter, sauf les femmes qui présentent une pathologie. Par exemple, une femme qui a un diabète avéré et qui est sous insuline devra être suivie par un gynécologue parce qu'une grossesse sous diabète, avec un diabète insulino-dépendant, doit être suivi et par un endocrinologue et par un gynécologue. Nous, on ne s'en occupera pas. Une patiente qui a une hypertension artérielle connue et reconnue, il y a des risques majeurs, d'éclampsie pendant la grossesse et au moment de l'accouchement. Donc ça, ce sont les gynécologues qui s'en occupent. Les gynécologues vont s'occuper de la partie pathologique. Plus souvent, ils s'occupent aussi de la physiologie chez les femmes. Mais c'est à eux qu'on va passer la main quand on se trouvera face à une situation pathologique, quand on est face à un frottis pathologique, par exemple, ou bien quand on diagnostique au cours d'un examen, d'un palpé mammaire, et ensuite avéré par une radiologie ou une échographie un cancer du sein, on passe la main au gynécologue. Sinon, eh bien, les femmes viennent nous consulter la plupart du temps pour des contraceptions. Des contraceptions, des bilans de MST, maladies sexuellement transmissibles, ou bien pour des suivis de grossesse, ou bien pour des préparations à l'accouchement, ou bien tout ça globalement, ou bien ensuite après les suivis de grossesse pour des rééducations périnéales, ou bien pour, par exemple, une consultation en urgence pour une mycose, une infection urinaire.
D'accord. Et du coup, est-ce que c'est des consultations qui sont remboursées ou pas par la Sécu ?
Elles sont toutes remboursées par la Sécurité sociale. Et en fait, à 100% de 16 à 25 ans, et ça, c'est quelque chose de très, très nouveau, sont des consultations pour, si on s'oriente vers la consultation de la jeune femme ou de la jeune fille, eh bien, sont des consultations qui peuvent durer très longtemps. Parce que, en général, en tout cas, en ce qui me concerne, mes consultations dure un minimum d'une demi-heure et quand c'est une première consultation de contraception, elle peut durer parfois jusqu'à trois quarts d'heure. Et croyez-moi, le temps est... on ne voit pas le temps passer. Si la jeune femme est accompagnée de sa maman, on accueille la maman dans un premier temps parce qu'elle va être intéressante pour nous donner plus d'informations sur les antécédents familiaux. C'est important que les jeunes femmes connaissent leurs antécédents familiaux parce qu'on a tous plus de risques si on a un père qui a fait de l'hypertension, si on a une mère diabétique, si on a des infarctus ou des cancers du sein dans la famille ou s'il y a des problèmes d'obésité ou de cholestérol dans la famille. Pour nous, c'est très important de savoir ça parce que d'abord, on permet d'orienter notre patiente en disant, écoutez, attention, diabète dans la famille, et puis là, au niveau du poids, on va peut-être essayer de recadrer un petit peu ça. Quel est votre poids de croisière? Est-ce qu'on peut parler du poids? On fait beaucoup de préventifs, en fait, dans nos métiers aussi. Et puis, ça va nous permettre aussi de cibler la contraception que l'on va prescrire par la suite. Ensuite, la maman, eh bien, on lui dit qu'on va rester le reste de la consultation tête à tête avec la jeune fille. Parfois, la mère n'est pas là. Et en général, quand les mamans s'en vont, si elles sont là, les langues se délient. Alors d'abord, je rassure avant tout la patiente, la jeune patiente, en leur disant surtout rassurez-vous, je les vois parfois, elles sont blêmes, elles sont vertes, elles sont toutes tendues. Ce que je comprends, une première contraception, première consultation de contraception, c'est quelque chose d'angoissant. On touche à sa féminité, à sa pudeur. Je les rassure tout de suite en leur disant « Je ne vais pas vous examiner aujourd'hui. Rassurez-vous. » Alors là, je les vois se détendre, le sourire apparaître. Et à moins qu'elles me disent « Oui, mais là, j'ai un petit bouton qui a poussé. » Et puis ça peut être un herpès hein, qui pousse, en effet, un petit condylome. Et je voudrais quand même vous montrer ça. Mais à moins d'une demande très particulière, en tout cas, en ce qui me concerne et en ce qui nous concerne, nous, les sages-femmes, bien, bien, bien souvent, on n'examine pas lors de la première contraception. Et puis, ça peut être aussi une demande qui est faite de la part de la personne qui vient en consultation, de dire « Voilà, je viens vous voir, je viens chercher des informations, je viens chercher probablement une ordonnance de contraception, mais je n'ai pas le désir d'être examinée aujourd'hui. » Et on doit pouvoir accepter sans aucun problème.
Totalement. Bah, c'est concrètement, c'était un point important de ce podcast, c'était pour savoir comment est-ce que se passait la consultation, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient inquiètes, notamment les personnes avaient peur d'être examinées dès la première consultation. Et comme vous le dites, c'est important de préciser que pas forcément, et c'est vraiment bon vouloir de la personne.
En fait, j'examine pas la première consultation, j'examine pas la deuxième consultation, peut-être à la troisième ou à la quatrième. C'est vraiment en fonction des besoins de la jeune femme en face de moi. C'est en fonction aussi de sa vie sexuelle. C'est en fonction aussi de son âge, parce qu'à 25 ans, on va réaliser un premier frottis. On réalisera un deuxième frottis à 26 ans. Et ça, s'il y a déjà une activité sexuelle chez cette personne, c'est bien de le faire parce qu'on recherche les anomalies cellulaires provoquées par les papillomavirus qui peuvent provoquer des cancers du col de l'utérus. Donc c'est intéressant et important de pouvoir faire un premier frottis à 25 ans. Donc se dire que jusqu'à 25 ans, peut-être que après tout, un examen gynécologique n'est pas forcément obligatoire. Sauf s'il y a une demande de pose de dispositif intra-utérin qu'on appelle aussi stérilé.
Et avez-vous un dernier mot à ajouter ?
Eh bien, le ministère de la Santé nous a toujours promis qu'il allait faire des parutions, des informations au sein de la jeunesse pour leur expliquer que nous existons dans ce domaine. Mais jamais rien n'est arrivé, et à notre grande déception. Mais ce que je trouve merveilleux, c'est que les jeunes, entre eux, parlent énormément. J'ai beaucoup de patientes étudiantes et qui se donnent le mot en disant mais de toute façon, la liste d'attente chez les gynécologues, très malheureusement, on est en manque de gynécologues, cette liste d'attente est vraiment très longue. Ils disent mais pourquoi ne vas-tu pas voir une sage-femme ? Donc en fait, c'est grâce à tous les jeunes qu'il y a un relais d'information qui est fait. Et ça, je leur en suis très reconnaissante parce que nos consultations ont un caractère peut-être un petit peu différent des consultations faites par certains gynécologues, en tout cas.
Et c'est notre rôle en tant qu'étudiant en relais santé, justement, de relayer l'information. Et c'est l'objectif de ce podcast. Donc en tout cas, merci beaucoup à vous. Je vous remercie d'avoir fait l'honneur d'être parmi nous et on espérera vous entendre pour un prochain podcast. Merci beaucoup.
Merci à vous, c'était vraiment très intéressant.